est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
Dans un régime totalitaire, la schizophrénie sociale, la séparation de la vie en sections imperméables, est un moyen de défense pour qui garde encore quelques principes moraux. Je ne me comporte de façon soumise et indigne que dans tel fragment de mon existence. Dans les autres, que je juge essentiel. Je reste une personne respectable. Sans cette séparation, je ne pourrais fonctionner normalement. Zvetan Todorov, Face à l'extrême. Bonjour, bienvenue pour ce deuxième numéro d'Absolument Essentiel, votre émission d'entretien culturel sur Transistor. Et pour ce deuxième numéro, mon invité est un grand penseur, un grand universitaire français d'origine bulgare, théoricien de la littérature, historien des idées, essayiste, observateur de ce monde. Mon invité aujourd'hui, c'est Zvetan Todorov. Et ce qu'il a à nous dire est absolument essentiel, à ce point que je vous propose deux émissions pour le prix d'une et sans augmentation du prix des consommations. Dans une semaine, la seconde partie, où il sera question de littérature et de vie, rien que ça, mais commençons par le commencement et par la première partie de cet entretien, réalisée au domicile de Zvetan Todorov, dans son bureau, et l'on va parler d'insoumission, rencontre. Bonjour Zvetan Todorov.
Bonjour.
Dans votre dernier livre, Insoumis, paru aux éditions Robert Laffont Versilio, vous proposez une galerie de portraits où se côtoient Germaine Tillion, Nelson Mandela, Edward Snowden, David Shulman, Alexandre Solzhenitsyn, Malcolm X, Boris Pasternak et Hetty Hillsum. Huit femmes et hommes, huit insoumises, huit insoumis. C'est ce qui, en tous les cas pour vous, les rassemble. Parce qu'ils et elles ont fait preuve de résistance morale à l'ordre dominant et de manière non violente. Refuser de se soumettre, est-ce que c'est faire preuve d'héroïsme pour autant ?
Eh bien, tout dépend de la définition que nous donnons de ces mots. Dans mon esprit, ces comportements que j'essayais de mieux comprendre consistait à pratiquer une forme d'intégrité morale dans l'espace public et non pas dans l'espace privé, là où habituellement la morale aujourd'hui est confinée. Et les huit personnages que vous avez énumérés le font de manière très variable, parce qu'il y a parmi eux des purs politiques, comme Mandela ou Malcolm X, d'une autre façon. Il y a à l'autre extrême des personnes qui n'ont aucune ambition politique, en particulier Hetty Hillsum, qui est le portrait inaugural du livre. Et puis il y a toutes sortes d'étapes, de cas intermédiaires entre les deux. Alors, est-ce que c'est héroïque ? Il y a 25 ans, j'avais écrit un autre livre qui touchait à ces problèmes, où d'ailleurs on retrouvait quelques-uns de ces personnages. Il s'intitulait « Face à l'extrême ». Et dans « Face à l'extrême », je proposais de penser qu'il y a deux séries de vertus et que à côté des vertus héroïques, on pouvait parler des vertus quotidiennes qui souvent sont pratiquées par des personnalités moins célèbres, justement parce que ces vertus sont inscrites dans la logique de tous les jours et non pas ce côté spectaculaire qu'a la vie du héros qui possède ces codes qu'on connaît à travers la littérature. Mais on peut, d'un autre côté, appeler ça héroïque, mais ça serait étendre un peu le sens du mot héroïque à tout acte admirable. Elles sont admirables, je dirais, plutôt que ce ne sont des héros.
Vous ne voulez pas en faire des exemples de vertu inimitable, pour reprendre l'expression de la fin de La Princesse de Clèves. Et vous dites pourtant, tout le monde admire Mandela, mais personne ne cherche à l'imiter. Et je crois que c'est d'ailleurs quelque chose qui est au départ du projet de ce livre.
Effectivement, Mandela était pour moi l'exemple paradigmatique, enfin parfaitement clair. Et c'est à partir de cet exemple que j'ai cherché à étoffer la vision de ce comportement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait donc bien d'autres formes. Mais je pense que le grain, la graine plutôt, d'où vient le livre, c'est le moment du décès de Mandela. Lorsque j'ai entendu à la radio, à la télévision, les discours unanimes de tous les chefs d'État qui se rendaient en Afrique du Sud pour exprimer leur admiration, pour dire à quel point Mandela leur était cher, qu'il avait été leur boussole constante dans leur combat, dans leur existence. Mais en réalité, on cherche en vain des individus tels que Mandela, c'est-à-dire des hommes politiques ayant des responsabilités, qui incarneraient les préceptes laissés par Mandela.
Alors, si c'est peut-être difficile d'imiter les insoumis, les insoumises de Tsvetan Todorov, c'est parce que ces hommes, ces femmes, ils ont plusieurs points en commun, et notamment celui de sacrifier, du jour au lendemain, leur confort pour dire haut et fort la vérité, et, en parallèle, de répudier l'usage de la violence dans leur lutte. On parlait de Mandela à l'instant, lui, qui a pourtant prôné la violence contre la violence, il s'est converti en quelque sorte à la non-violence en prison. Et pour prendre un autre personnage de cette galerie de portraits, auquel il arrive à peu près cette chose-là, c'est Germaine Tillion. Pour elle, ce qui est comme un déclic s'opère lors du procès des gardiens de Ravensbrück, c'est ça?
Je pense que le déclic chez Germaine Tillion se produit très tôt, mais il ne devient une règle de vie qu'au moment de la guerre d'Algérie. Donc, on peut l'observer par petites touches que dès son premier tract qu'elle écrit dans la clandestinité, destinée à une revue qui disparaîtra avant qu'elle ne puisse accueillir ses contributions, qui s'appelait d'ailleurs Résistance, elle suggère déjà que en s'engageant dans le combat frontal, radical contre l'occupant, néanmoins, on veille à éviter toute réduction de l'ennemi à un objet de haine. Et plus tard, quand elle est en prison, même quand elle est au camp, où les conditions sont encore plus dures, elle subit de nouveau la violence de la confrontation, mais en même temps, elle s'aperçoit, un peu comme Mandela, que les surveillantes même si nombre d'entre elles ou d'entre eux sont agressifs, il y en a aussi quelques-uns qui ne le sont pas. Il y a ce que Mandela appelle une lueur d'humanité, y compris chez vos adversaires les plus acharnés. Et cela se confirme donc un peu plus tard, au moment du procès des surveillants, surveillantes de gardiens de Ravensbrück, auquel Germaine Tillion assiste en tant que témoin, elle ne peut se libérer d'une sorte de pitié qui l'envahit, alors même qu'elle n'a rien oublié des violences que ses personnalités, ses personnages ont infligées à ses camarades et à elle-même.
Elle refuse de rentrer dans le cercle vicieux de la haine. Elle parle d'ennemis complémentaires, c'est-à-dire ne pas être l'ennemi de son ennemi parce qu'il est notre ennemi. Vous, vous allez encore plus loin, vous dites les insoumis, les insoumises. Certes, bien sûr qu'ils refusent cette théorie de l'ennemi complémentaire, mais bien plus, ils refusent l'ennemi intérieur. Qu'est-ce que c'est ce concept d'ennemi intérieur ?
C'est un peu notre daimon, notre démon intérieur qui nous pousse, malgré notre volonté, dans certaines directions. Et en particulier lorsqu'on est agressé, lorsqu'on subit les coups de la dictature, de l'occupation, de diverses formes de violence, on est tenté par de répondre au coup par coup, d'exercer des représailles de la même intensité, voire supérieure, à l'injure, à l'agression qu'on a subie. Germaine Tillion avait donc observé, pour sa part, que dans un conflit comme celui de la guerre d'Algérie, mais pas comme celui de la Deuxième Guerre mondiale, une grande partie de ce conflit était en quelque sorte évitable. Ces raisons pouvaient être négociées et transformées en terrain commun d'entente. Parce qu'il, finalement, il aurait mieux arrangé les deux parties en présence. Sauf que chacun agissait dans la logique des ennemis complémentaires, ou comme elle disait, Ali Lapointe est la bonne conscience de Massu, Massu est la bonne conscience d'Ali Lapointe. Ali Lapointe était le terroriste en chef, le plus connu du moment, et Massu dirigeait les parachutistes. Donc, c'est cette violence mimétique dont elle pensait qu'on pouvait aller au-delà. Mais il y a effectivement autre chose, et on le voit chez divers personnages, mais notamment chez Etiquie Lessoum d'emblée. Etiquie Lessoum, cette jeune juive qui sera déportée à Auschwitz, mais qui passera les deux dernières années de sa vie à Amsterdam à observer, réfléchir et éprouver de l'intérieur la mutation de sa personne, eh bien, elle tiendra à ne pas ressembler à l'ennemi, donc à vaincre d'abord cette force qui, en elle-même, s'élevait pour lui enseigner la violence, pour enseigner la réponse tout aussi brutale, au moins, que la violence qu'elle subissait.
Etiquie Lessoum fait donc le choix de surmonter ennemi complémentaire, ennemi intérieur, de se réconcilier avec les autres et en quelque sorte, du coup, avec elle-même. Et tous les insoumis, ils ont une réponse à l'injustice qui est finalement l'amour, la sincérité, la générosité. C'est-à-dire qu'ils décident de ne pas soumettre la morale à la politique, à la manière des révolutionnaires russes, par exemple, de ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire de soumettre la politique à la morale, comme les instigateurs de quelques croisades que ce soit, par exemple, mais ils préfèrent utiliser une sorte de qualité morale, une sorte de vertu qui leur est propre, qui les habite, comme une arme politique, c'est bien ça ?
C'est bien cela. Je ne saurais mieux le résumer. Et je pense que peut-être le mot d'amour n'est pas toujours suffisamment juste, parce que on n'est pas dans l'injonction d'aimer ses ennemis, mais on veut maintenir ses adversaires, ennemis, agresseurs, dans le cercle commun de l'humanité, et donc de leur donner une chance, d'essayer de trouver un terrain possible où on peut s'asseoir et discuter comme le suggère encore Germaine Tillon. Elle recommandait une politique de la conversation comme point de départ.
On vient d'essayer de définir un petit peu ce qu'est l'insoumission. On a évoqué des noms de personnes qui ne sont plus. C'est quoi le visage ou qui représenterait l'insoumission aujourd'hui? Dans votre livre, on trouve deux réponses. Et je vais commencer par celui qui est peut-être le moins connu, c'est-à-dire David Shulman. Vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît?
C'est un professeur de littérature sanskrite, donc spécialiste de l'Inde classique. Il est professeur à l'Université de Jérusalem, en Israël. Et pour des raisons que je ne connais pas bien, il s'est senti concerné par ce qui arrivait aux Palestiniens, notamment dans les situations d'expropriation, d'humiliation de diverses sortes, de refus de leurs droits que pourtant il n'y avait aucune raison légale de les refuser. Et comme par ailleurs il ne porte aucune arme, sa forme d'intervention, c'est de porter témoignage avec les autres membres d'un mouvement dont il est l'un des animateurs. Il se rend chaque fois qu'une telle action est annoncée, c'est-à-dire une action du genre expropriation, confiscation de terres, destruction des maisons, destruction des jardins. Cette simple présence permet parfois d'empêcher cet acte. Il devient de... Là aussi, il a une certaine foi dans les vertus de la conversation. Il essaie de discuter avec les militaires, avec les colons, c'est plus difficile. Et il y a parfois de fragiles avancées, d'autres fois aucun résultat positif, mais c'est un homme qui ne peut pas s'imaginer qu'il va cesser d'agir simplement parce que cela ne s'arrange pas immédiatement.
C'est une attitude que vous décrivez dans un chapitre de votre livre qui semble, hélas, particulièrement d'actualité à l'heure où on parle déjà d'intifada des couteaux. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle étape dans le conflit israélo-palestinien qui semble démentir toute capacité d'insoumission?
Il me semble que c'est un des conflits les plus désespérants que l'on connaisse parce qu'il dure depuis très longtemps et il n'y a pas eu, à la manière de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, des personnalités de haut rang qui aient pu parler au nom des opprimés et des oppresseurs, en l'occurrence, et qui puissent trouver un terrain d'entente. Alors que, très certainement, c'est dans leur intérêt commun. Sauf que le manque de confiance est tel que cette avancée ne peut se produire. Donc, nous connaîtrons, comme le dit d'ailleurs Shulman, une alternance de, comme si le script, comme si la partition avait été écrite depuis longtemps, tantôt un peu plus violent, tantôt un peu plus soumis aux règles imposées par l'occupant, mais sans beaucoup d'espoir. Mais je dirais que d'une façon générale, mes personnages, plusieurs sont décédés, effectivement, mais je trouve que tout le phénomène du terrorisme, qui est un phénomène d'actualité, qui s'est développé depuis quelques années sous de nouvelles formes, est là pour nous inciter à des attitudes différentes, peut-être, de traiter ces actes violents que nous ne le faisons habituellement, qui est de simplement pratiquer une répression aussi complète que possible.
Et quelles seraient-elles ces attitudes nouvelles à observer?
Eh bien, ces attitudes, si on voulait suivre l'exemple de Mandela, de Tillon, etc., serait un moyen de commencer par discuter.
La politique de la conversation.
La politique de la conversation.
Autre figure de l'insoumission, Edward Snowden, il est bien connu et on peut se dire qu'il semble un petit peu en décalage avec le reste des personnages, puisque vous les nommez comme ça, de votre livre. Pourquoi non? C'est bien un insoumis, Edward Snowden.
Il me semble que c'est bien insoumis aussi, dans le même sens que mes dissidents russes en particulier. Il a des traits communs avec Solzhenitsyn, bien que ça a quelque chose de saugrenu, l'image de l'un, la grande barbe blanche, un peu prophète toujours, tonnant, lançant ses condamnations ou encouragements. Et l'autre, qui est un personnage quasi anonyme, qui fuit toute notoriété, en fait, qui n'a aucune activité en ce moment. Il attend que sa vie lui offre une nouvelle possibilité d'aller vivre dans un cadre plus proche de ce qu'il est, mais qui a accepté de sacrifier tout pour dénoncer des pratiques qui lui semblait être contraire à la Constitution américaine. Parce que la grande motivation de Snowden, c'est le patriotisme. Assez aussi surprenant que cela puisse paraître, il ne le fait pas au nom d'une idéologie quelconque, il le fait parce qu'il considère que les principes inscrits dans la Constitution se trouvent bafoués par cette manière de pratiquer la surveillance totale, ou en tout cas qui se laisse emporter vers l'horizon de la totalité. Surveillance de tous sur tout.
C'est ce qui le fait se lever et devenir ce lanceur d'alerte qu'il est devenu au péril de la sûreté de sa vie, finalement. Mais quelle relation y a-t-il avec Solzhenitsyn dont vous parliez?
Eh bien, Solzhenitsyn aussi était convaincu qu'il y avait une vérité à faire connaître sur son pays. Et par tous les moyens, il voulait que cette vérité soit sue. Cette vérité concernait le système des camps. Il lui semblait qu'on s'enfermait dans le mensonge, dans l'imprécision, si on se contenter de parler de la révolution et de ses idéaux sans tenir compte du fait que la révolution avait engendré, dans le pays où elle a vaincu, avait engendré ce système monstrueux, ce filet lancé sur le pays tout entier de camps au régime de plus en plus dur. Et donc, Solzhenitsyn, au risque de sa vie, de sa liberté, de son confort, a tenu à dénoncer, à décrire et dénoncer les camps sous toutes leurs formes, jusqu'à ce qu'ils soient expulsés.
Vous nous dites que c'était un petit peu un lanceur d'alerte.
C'était un lanceur d'alerte à sa manière et il a bien travaillé. Parce que je pense que Solzhenitsyn est l'un de ceux qui ont contribué, il n'est pas le seul, mais il a contribué à ce que le système totalitaire s'effondre.
Alors tout à l'heure, vous me disiez, Edward Snowden, il a des points communs avec mes dissidents russes. J'aime bien l'adjectif possessif d'une part. Et donc on a parlé de Solzhenitsyn. Quel lien, en revanche, entre Snowden et Boris Pasternak?
Là, le lien est beaucoup moins direct, c'est clair. Mais Pasternak est aussi animé par l'idée de vérité. Sauf que c'est une vérité d'écrivain, une vérité de représentation, et non pas une vérité factuelle et précise. Il y a eu tant de morts dans le camp de Kolyma ou un autre. car ce qui a transformé la vie de Pasternak, lui aussi il a subi une conversion sur laquelle je m'attarde assez longuement, parce que dans l'année 1935, il est prêt encore à chanter une forme d'éloge, hymne presque, une fugue à deux voix, comme il dit, de Staline, le chef de l'État soviétique. Et puis, à partir du lendemain, enfin, au bout de très peu de temps, il subit une véritable conversion, et un jour, quelques années plus tard, il se prend la décision d'écrire sans penser à la publication, donc de ne faire aucun compromis dans son écriture, mais de dire la vérité telle qu'il la comprend de ce qu'est devenu ce pays, de ce qu'a été et a engendré la révolution, de ce qu'est l'homme nouveau soviétique ou vivant dans ce pays. Et 10 ans plus tard, il est arrivé avec son roman terminé.
Docteur Jivago.
Docteur Jivago. Et ce roman, il l'a défendu suffisamment pour qu'il soit publié à l'étranger, malgré les obstacles de toutes sortes. Donc, là aussi, il a beaucoup sacrifié dans sa vie, parce qu'il aurait pu rester un poète marginal, mais très respecté, habitant tranquillement dans sa datcha, entre son épouse, son ex-épouse et sa maîtresse, et tout cela dans la parfaite harmonie. Eh bien non, il a vraiment été persécuté, traîné dans la boue, menacé d'expulsion, ce qui pour lui, à son âge, dans son état de santé, etc., était l'équivalent d'une condamnation à mort.
Alors pour terminer cette première partie de notre entretien, Zvetan Todorov, comme l'émission s'appelle Absolument Essentiel, qu'est-ce qui, selon vous, est absolument essentiel si on veut être insoumis ou insoumise?
Les exemples sont assez variés, on l'a peut-être senti. Donc, le dénominateur commun, à part l'insoumission elle-même, est donc un comportement de résistance, bien que pas toujours accompagné d'un espoir de gagner. C'est un peu cela qui est le commun à tous les candidats. Mais je suis frappé aussi par le fait que chacun d'eux a été confronté à une violence extrême. Et il me semble que c'est un peu la condition pour que un tel pas puisse être franchi, que de voir ce qui pour eux à ce moment a été le mal vraiment de très près et d'accepter de continuer à le regarder.
Merci Zvetan Todorov. La semaine prochaine, vous pourrez découvrir la seconde partie de cet entretien. Nous parlerons de littérature, de civilisation. Zvetan Todorov nous dira ce qui, dans sa bibliothèque, est absolument essentiel. Je vous lirai un joli poème. Et puis, Zvetan Todorov aura même un petit conseil pour les agrégatifs en histoire. C'est à découvrir la semaine prochaine, donc. Mais d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.